Il en va de l'apaisement et de la sérénité de ceux qui ont été meurtris. Il en va aussi de la possibilité pour notre jeunesse de sortir des conflits mémoriels. C'est en ces termes qu'Emmanuel Macron vous a confié fin juillet une mission sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Benjamin Stora, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, professeur des universités. Vous travaillez précisément sur ces questions depuis plus de 40 ans. Au mois de mars dernier est sorti aux éditions Robert Laffont une mémoire algérienne qui réunit 6 de vos ouvrages. Nous allons également en parler. Benjamin Stora, dans sa lettre de mission, le chef de l'État dit qu'il importe que l'histoire de la guerre d'Algérie soit connue et regardée avec lucidité. Vous, bien sûr, c'est votre sujet depuis déjà très longtemps, mais ce travail de réconciliation commence-t-il obligatoirement par une meilleure connaissance?
Assurément, bien entendu, c'est l'histoire, bien sûr, qui doit être au centre de la réflexion et non pas simplement la mémoire. Car comme le disait l'historien Pierre Noir, les mémoires divisent, l'histoire rassemble. C'est-à-dire que la connaissance historique fondée sur des archives, bien sûr, sur des témoignages, sur la presse, sur le recoupement et la confrontation d'une série d'informations, c'est le meilleur rempart à l'obscurantisme, aux stéréotypes qui peuvent exister autour de cette histoire sanglante, d'ailleurs, de cette histoire terrible, de cette histoire coloniale. Donc j'ai toujours plaidé pour l'histoire, pour la nécessité de l'histoire et pour regarder toute l'histoire, c'est-à-dire de tous les côtés de cette histoire.
Alors justement, de tous les côtés, il se trouve que parallèlement, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a lui nommé quelques jours après votre nomination Abdelmadjid Chiri, le directeur général du Centre national des archives algériennes, pour mener un travail de vérité, c'est le mot employé, sur les questions mémorielles entre nos deux pays. Ce sont donc des missions parallèles et il est important précisément de mener ce travail des deux côtés.
Je pense effectivement qu'il est très difficile d'écrire des histoires qui ne entrent pas en résonance des deux côtés de la Méditerranée. Ce qui ne signifie absolument pas, bien sûr, qu'on peut écrire une histoire commune. Je n'y crois pas. Parce que, bien entendu, les histoires communes, ce sont des histoires voulues par les États. Moi, je connais l'histoire des historiens critiques qui, y compris, et ça a été mon cas, par exemple, déconstruisent les récits officiels. Vous savez, du côté algérien, j'ai écrit une biographie de Messalia, de Ferhat Abbas, qui n'était pas des personnages, disons, qui étaient sur le premier plan de la scène politique mémorielle pendant très longtemps en Algérie. Et du côté français aussi, j'ai travaillé sur, par exemple, la biographie de François Mitterrand ou celle du général de Gaulle, et donc de critiquer aussi, ça a été mon cas, l'attitude de la gauche française par rapport à cette guerre d'Algérie. Donc le travail des historiens, c'est un travail de rassemblement des sources et d'opérer souvent et d'ouvrir souvent des espaces critiques de discussion par rapport à des récits officiels déjà construits. C'est un travail nécessaire. Maintenant, il existe, bien sûr, la possibilité des rapprochements d'État à État pour essayer de trouver des passerelles, des points communs d'histoire où l'on pourrait trouver naturellement des dates symboliques, des personnages à honorer. C'est ce que m'a demandé de faire le président de la République française dans cette lettre de mission. Donc il ne s'agit pas, il n'a jamais été question, d'ailleurs il suffit de lire la lettre de mission, il ne s'agit absolument pas d'écrire une histoire commune, mais tout simplement d'essayer de trouver des points de passage qui permettraient de pouvoir avancer ensemble dans la résolution d'un certain nombre de questions historiques.
Alors justement, cela fait une quinzaine de jours maintenant que vous avez été chargé de cette mission et très vite, il y a eu des critiques. Jean Sevilla, dans le Figaro Vox, a estimé que vous aviez une vision partielle et partiale, que vous étiez une figure des cercles bien pensants, que vous étiez un historien de la mémoire algérienne de la guerre d'Algérie. Vous avez répondu, vous avez adressé une mise au point. Au fond, Benjamin Stora, est-ce que ce genre de critique vous surprend vraiment ?
Non, parce que malheureusement, on a assisté depuis longtemps maintenant, depuis très longtemps, à une sorte de communautarisation des mémoires. C'est-à-dire que chacun des groupes porteurs de cette mémoire algérienne s'est enfermé à l'intérieur de son propre ghetto mémoriel. Naturellement, les Européens d'Algérie qui ont beaucoup souffert de l'exil, du déracinement, mais aussi les harkis, bien entendu, les forces supplétives de l'armée française, les immigrés algériens en France qui ont aussi connu des moments très durs au moment de la guerre d'Algérie en métropole, les soldats français qui ont eu le sentiment d'être abandonnés, d'être incompris dans cette histoire. Bref, les grands groupes porteurs de cette mémoire algérienne au fur et à mesure des années qui ont passé, ont eu tendance à se séparer et à s'enfermer à l'intérieur de leur propre souffrance. Cette communautarisation des mémoires est naturellement assez dangereuse parce qu'elle conduit à des concurrences de mémoire, c'est-à-dire des mémoires fractionnées et des mémoires non partagées. Donc ça ne m'étonne pas, parce que moi j'ai essayé tout au long de ma vie, précisément de circuler d'une mémoire à l'autre. J'ai écrit, par exemple, sur les Européens enlevés à Oran en juillet 62, dans mon livre, La gangrène et l'oubli, en 1991, comme j'ai pu écrire, disons, sur les harkis dans les temps modernes, en 2012. Mais qu'importe, chacun des groupes ne lit pas, disons, les récits de l'autre. C'est comme le cinéma, vous savez, il y a des films qui ont été faits pour les pieds noirs, le coup de Sirocco, pour les soldats, l'honneur d'un capitaine, ou d'autres encore, où chaque groupe, pour prendre la mémoire, venait regarder sur les écrans sa propre douleur, ses propres interrogations, ses propres souffrances et inquiétudes, sans vouloir forcément essayer de comprendre la parole de l'autre, la souffrance de l'autre. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs du travail historique, c'est de circuler à travers l'ensemble de ces mémoires pour essayer de construire un récit homogène, un récit commun. C'est tout le travail de l'histoire. Donc c'est pas moi qui suis hémiplégique, c'est ceux qui veulent tronçonner les mémoires, c'est ceux qui veulent ne parler qu'un seul aspect. Moi j'ai travaillé à la fois sur le nationalisme algérien, à travers les biographies, comme je le disais, de Ferhat Abbas ou de Bessaliac, ou d'un dictionnaire biographique. J'ai établi 600 biographies d'acteurs algériens nationalistes, mais j'ai travaillé aussi du côté français. Mmh. Et donc, par exemple, dans des travaux très importants sur l'histoire des Juifs d'Algérie, à travers un livre qui s'appelle « Les Trois Exils », ou mon propre récit autobiographique, « Les clés retrouvées ». Donc j'ai travaillé sur les Européens, les Juifs d'Algérie, les Harkis et les Algériens. Dans le fond, ce qu'on me reproche, c'est de travailler, disons, d'une rive à l'autre, mémorielle. Et de ne pas me cantonner à une seule explication rassurante. On voudrait, dans le fond, m'enfermer dans une seule explication rassurante, ce que je me suis jamais voulu faire. C'est ce qu'a fait, disons, c'est le reproche, d'ailleurs, par parenthèse, excusez-moi d'être un petit peu long, c'était d'ailleurs le reproche qu'on faisait un peu quand même à Albert Camus, hein, qui essayait de circuler à travers, disons, toutes ses mémoires, et à qui on reprochait de ne pas être clairement un partisan d'un camp ou d'un autre.
Mais justement, Benjamin Stora, vous pensez vraiment que ces critiques, en fait, avec ces critiques, c'est vous qui êtes visé personnellement, ou c'est aussi à travers vous la démarche, tout simplement?
Je crois que c'est la démarche qui est visée, effectivement. Voilà. Bon, évidemment, bon, étant donné que le président de la République m'a fait l'honneur de me confier cette mission, donc c'était une mission pour essayer de trouver des chemins de réconciliation et de paix, c'est une mission qu'on ne peut pas refuser, bien entendu. Ça me paraît assez évident, surtout que j'ai travaillé depuis de très nombreuses années, à travers de différents ouvrages, comme La gangrène et l'oubli, etc., depuis de très nombreuses années, sur cette question du cheminement des mémoires dans les sociétés françaises et algériennes. Donc c'est pas, effectivement, peut-être mon itinéraire singulier de professeur d'université, d'enseignant dans différentes universités françaises et étrangères, qui est directement visé, mais peut-être que c'est aussi la démarche du président de la République, tout simplement. C'est une attaque à caractère politique, et non pas à caractère historien, à caractère historique, à caractère scientifique. Parce que, bien entendu, il suffirait de lire mes ouvrages, de circuler à travers ma production historique, hein, depuis 1974, qui est la date de mon mémoire de maîtrise avec René Raymond et Jean-Pierre Rioux, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2020, pour s'apercevoir effectivement que j'ai, disons, essayé au maximum d'écrire de l'histoire et ne pas m'enfermer dans des mémoires qui forcément se communautarisent, se ferment entre elles et sont blessées, parce qu'elles sont blessées.
Bien sûr. Alors justement, il se trouve que cette mission vous est confiée peu de temps après la parution chez Robert Laffont d'une mémoire algérienne qui réunit donc 6 de vos ouvrages. Benjamin Stora, vous en avez déjà cité quelques-uns. Les clés retrouvées, Dernière génération d'octobre, Les guerres sans fin, Le mystère de Gaulle, François Mitterrand et la guerre d'Algérie et Les trois exils. Quelle était, à vous, votre démarche quand vous avez, en décidant de réunir ces 6 ouvrages et d'en faire une mémoire algérienne?
Vous savez, il y a d'autres ouvrages qu'on n'a pas retenus, hein, comme des ouvrages travaillant sur la mémoire, comme Le transfert d'une mémoire ou Les mémoires dangereuses que j'ai écrit avec Alexis Génie aux éditions de Albin Michel. Donc tous ces ouvrages sur la mémoire n'ont pas été retenus, on n'a retenu que des ouvrages d'histoire. Et des histoires d'ailleurs françaises, avec De Gaulle, avec Mitterrand, écrit avec François Mali, Il y a aussi, bien sûr, une dimension, moi, qui m'a intéressé, tout à fait personnelle, c'est l'engagement d'un historien dans l'écriture d'une histoire en train de se faire. C'est-à-dire à travers, par exemple, mon parcours personnel dans les années 70 et comment je me suis intéressé à l'Algérie, non pas en fonction de mes origines, puisque je suis né à Constantine en 1950, mais en fonction de mes engagements politiques. C'est ça qui m'a intéressé, c'était pas l'origine qui m'incitait à travailler sur moi-même. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est, dans les trois exils et les clés retrouvées, de revenir longtemps après sur ce qui constituait précisément l'origine elle-même, c'est-à-dire mon lieu de naissance d'Algérie. C'est-à-dire de faire cette circulation qui, partant, disons, d'un intérêt, j'allais presque dire universaliste abstrait, c'est-à-dire l'Apocalypse, la Révolution, la séparation de l'Algérie et de la France, l'exil, etc., et de revenir, disons, aujourd'hui, à travers, par exemple, mon livre, je pense, un des plus importants, Les Clés retrouvées, va donc venir à ce qu'a été mon enfance, tout simplement, et les troubles de cette enfance. Vous voyez, donc, c'est à la fois un récit classiquement historien sur De Gaulle et Mitterrand, mais aussi une interrogation sur le métier d'un historien qui regarde et vit dans une histoire en train de s'accomplir. Je dirais d'un mot aussi que peut-être j'appartiens à une génération d'historiens à propos de l'Algérie qui est née en Algérie. C'est-à-dire une dernière génération. Les historiens qui sont très nombreux aujourd'hui qui travaillent sur cette histoire algérienne et française, pour la plupart, ne sont plus nés en Algérie.
Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que cela change d'après vous?
Ben, c'est très important. C'est comme l'arrivée au pouvoir, d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire une génération qui n'est pas encombrée par ses douleurs, par ses exils, par ses ressentiments, pour certains, ce qui n'est pas mon cas, par ses désirs de vengeance secret, etc. C'est une génération qui, débarrassée de tous ces fantômes, peut précisément, peut-être, je l'espère, regarder davantage en face l'histoire de l'Algérien, traverser les miroirs, comprendre les souffrances des autres pour ne pas rester enfermé dans une seule souffrance. Et c'est une nouvelle génération qui arrive. Moi, peut-être que j'appartiens, et c'est ça que j'ai voulu aussi démontrer dans ces ouvrages, peut-être que j'appartiens à une dernière génération qui est encore encombrée, peut-être, de cette origine algérienne, de cette mémoire algérienne qui travaille encore profondément la société française.
Et en même temps, vous assumez totalement que vos écrits, justement, mêlent votre vécu et votre travail de chercheur d'historien.
Oui, moi, à la fin, vous savez, bon, j'ai nié très longtemps la part de subjectivité, comme je disais, qui était la mienne, pour ne pas parler de l'Algérie à partir de mon propre parcours. Puisque dans le fond, j'ai commencé, c'est vrai, à travailler sur l'histoire des nationalistes algériens. Donc, il est vrai que je voulais mettre à distance cette subjectivité. Mais avec l'âge, peut-être, et en avançant en âge, et en avançant en connaissance aussi, et puis en allant aussi en Algérie, rencontrer des historiens algériens, des intellectuels algériens, dont certains sont devenus de très très bons amis, au fur et à mesure du temps qui passe, bien, j'avais aussi cette nécessité peut-être de relier cette objectivité, entre guillemets, scientifique, avec cette part de vérité subjective, et peut-être de la confronter. Alors, bon, c'est un ce qu'on pourrait appeler aussi un exercice d'égo-histoire, donc, qui permet, vers la fin, dans un parcours scientifique et historique, puisque maintenant, aujourd'hui, je suis à la retraite, donc je n'enseigne plus dans l'université française, peut-être de me retourner et de regarder ce qui fait à la fois le caractère objectif d'une recherche et sa part subjective.
Vous expliquez, Benjamin Stora, et on le voit bien en ce moment, que la question mémorielle, ça n'est pas seulement de l'histoire passée, c'est aussi une actualité qui concerne les sociétés au présent. Justement, l'enjeu, c'est aussi de regarder le passé en face pour mieux regarder le présent. Et à ce titre, justement, quel regard portez-vous sur les débats actuels des dernières semaines, des derniers mois, parfois très durs, autour de la colonisation, de l'esclavage, avec notamment l'affaire des statues des Boulonnais?
Ben, écoutez, pendant très longtemps en France, la question coloniale n'a pas été assumée pour des tas de raisons. Parce que dans les générations de l'après 68 dont j'appartiens, on pensait que la question coloniale était réglée, elle était derrière nous. La tâche principale, centrale, c'était l'édification du socialisme, en particulier dans les pays décolonisés. Donc on s'est pas beaucoup intéressé à la pesanteur, disons, des idées, des imaginaires coloniaux, des traces laissées par les imaginaires coloniaux, à l'intérieur des grandes métropoles coloniales. On s'en est pas préoccupait véritablement. La priorité était donnée, encore une fois, à l'économie, la construction de pays dits socialistes, etc., etc. C'était une erreur. C'était une erreur parce qu'en fait, il y avait, notamment dans les nouvelles générations qui sont arrivées à partir des années 80 à 90, un désir de citoyenneté très fort et une mise en relation entre le racisme vécu au quotidien et l'histoire de leur père ou de leur grand-père. Et c'est là, dans ces années 80-90, donc vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui, que précisément la question nationale coloniale a pris toute son importance dans la question nationale française. Et le retard pris à regarder en face ce passé a nourri naturellement des rancœurs, mais aussi des stéréotypes, des récits fantasmés, qui naturellement se sont installés à l'intérieur de la société française, ce qui fait qu'il est très difficile, et il faut s'atteler quand même à le faire, qu'il est très difficile à contextualiser ces récits, à les expliquer et à dire en particulier que la France n'a pas été seulement colonisatrice, mais elle a été aussi un pays ou une patrie portant des anticolonialistes, des grandes figures de l'anticolonialisme. Et tout ce travail, disons, éducatif, scolaire, compliqué, avec le retard que nous avons pris, il faut le mettre, il faut le livrer aujourd'hui aux jeunes générations pour montrer ce qu'a été non seulement les figures de l'anticolonialisme français, mais aussi comment les nationalistes qui vivaient, qui combattaient le système colonial, et non pas la France, mais le système colonial, eh bien, ont utilisé les valeurs républicaines pour les retourner contre le système colonial. Vous savez, il y a des textes très nombreux, hein, où on voit des nationalistes qui utilisent, disons, les textes républicains pour les retourner contre le système colonial. Donc la question, c'était d'obtenir une indépendance politique sans forcément se séparer des valeurs universalistes. C'est tout cet enjeu et toute cette bataille-là qu'il faut mener aujourd'hui dans des conditions difficiles parce que ce sont des conditions de retard.
Oui, parce que c'est ça aussi. Voilà, il y a l'histoire et puis il y a le moment, le présent, qui est celui où on décide qu'on va essayer de mieux regarder cette histoire. Justement, de ce point de vue-là, comment vous analysez ce moment dans lequel nous sommes et qui est le moment où on vous demande de travailler sur cette mémoire?
Ben, c'est un moment important parce que on peut pas indéfiniment retarder l'examen du passé colonial et esclavagiste de la France en disant c'est pas le moment, c'est pas, on peut pas le faire, etc. Si on retarde trop, et c'est d'autres récits qui vont s'engouffrer, des récits de dénonciation et de séparation de l'histoire nationale française. Or précisément le problème, à mon avis important, c'est de montrer en quoi ceux qui ont combattu le système colonial n'étaient pas anti-français. Ils étaient contre le colonialisme français, ce qui n'est pas pareil, ce qui n'est pas pareil. Et ce travail éducatif, ce travail scolaire, même dans les lycées, etc., il faut le mener maintenant. Il faut commencer à le prendre à bras le corps et ne pas dire, ah, on n'en parle pas parce qu'il y a de la repentance coloniale, je ne sais quoi. Et là, la question, c'est pas d'inventer des mots écrans, qui effraient, mais c'est de se coltiner à la réalité de l'histoire française, à son histoire, dans ses pages de lumière et ses pages sombres. Si on ne le fait pas, si les historiens ne le font pas, si les hommes politiques ne le font pas, d'autres le feront. Et là, effectivement, ce sera dangereux.
Alors cette mission, donc il va y avoir, je crois, une synthèse. Et puis Emmanuel Macron vous a aussi demandé des préconisations, des recommandations. Ça va aller vite. Vous avez déjà avancé.
Oui, ça va aller très vite. Hein. Je pense que c'est effectivement ce que veut le président de la République. C'est non pas un très gros rapport, vous savez, ce genre de rapport très très long. En définitive, on ne lit pas. Voilà. Non, mais ce qu'il veut, c'est un rapport assez court, avec un certain nombre de préconisations pour essayer de réfléchir à mettre en place peut-être un comité de pilotage sur des tâches très concrètes, portant sur la question des archives, des disparus, de ce qui s'est passé, disons, avec les Européens d'Algérie, par exemple sur les cimetières qui sont aujourd'hui en Algérie, qu'il faut entretenir, bien entendu, c'est une mémoire très 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 importante pour les Européens d'Algérie. Il y a toutes ces questions très concrètes, très pratiques, qu'il faudrait essayer de mettre en œuvre, et puis surtout développer une coopération à caractère interculturel, notamment avec des images, avec la télévision, parce qu'aujourd'hui on connaît la puissance des images, et donc créer peut-être ou inventer des formes, disons, de travail en commun sur la production des images d'une rive à l'autre de la Méditerranée pour toucher la jeunesse d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Benjamin Stora. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Culture. Une mémoire algérienne est donc publiée aux éditions Robert Laffont. Merci, le journal dans un instant.